Bonjour, toujours sur Radio Méga, bienvenue sur Underscore, c'est l'heure de profiter de l'air chaud du numérique pour vous détendre avec notre émission, bonne écoute.
Ah là là, mais il fait chaud aujourd'hui, hein. Bonjour Mimiman, bonjour Doudou, bonjour Matt Bell.
Bonjour Cécile.
Bonjour tout le monde.
Oui, hein, on va profiter un petit peu parce que un sujet que François Mimiman nous a préparé, hein, savoir sur les conteneurs je crois, un truc comme ça.
Ouais.
C'est pas pour les regarder au loin sur les bateaux.
Non, on sort en boîte.
Ah, ben voilà, ça
boîte,
tombe bien.
En boîte. Enfin...
Mais avant, je crois qu'on passe un peu d'actu.
Ouais.
Allez.
La FSFE demande à l'Union européenne encore plus de logiciels libres dans l'intelligence artificielle. Si la résolution sur l'intelligence artificielle adoptée récemment par le Parlement européen fait de nombreuses références aux logiciels libres, la FSFE souhaite que ceci aille plus loin.
Oui, Matt Bell.
Oui.
La FSE demande à l'Union européenne droit universel d'installer n'importe quel logiciel sur n'importe quel appareil. Dans une lettre ouverte co-signée par de nombreux autres organismes, la FE, demande à l'Union européenne des droits d'installer les logiciels que l'on veut sur les matériels que l'on achète, notamment pour permettre de continuer à les utiliser après la fin du support par le fabricant.
Ouais, enfin, juste de pouvoir utiliser ce qu'on achète, quoi. Question 1. Des chercheurs créent une méthode de détection de deepfake avec 99% de précision. Bon, enfin, 1% pour l'instant, hein, parce que d'ici à ce qu'ils puissent contourner la détection.
Oui, là, on ne sait rien, n'est sûr. Firefox arrive en version 100.
Ouais.
Avec le support du thème sombre automatique et le support des sous-titres et des légendes sur des sites vidéo. Et aussi dans plusieurs dictionnaires simultanés, plus besoin de commuter tout le temps entre français et anglais. Ça arrive aussi bientôt dans Thunderbird.
L'intégration de Google Analytics dans des pages web n'est pas conforme au RGPD. L'autorité autrichienne arrive à la même conclusion que la CNIL sur ce sujet.
Le gouvernement chinois veut passer complètement à Linux et donc virer Windows et veulent aussi supprimer les PC fabriqués par les Américains.
Wikimedia France réclame une interdiction de la surveillance biométrique dans l'espace public. C'est par une tribune publiée sur Next Impact que l'association demande une interdiction claire et simple de l'utilisation des systèmes d'identification biométrique dans l'espace public, dans le contexte du futur règlement européen sur l'IA.
Eh bien, on écoute Baryon de Turbonite pour au tweet nous retrouver pour le sujet du jour avec C'est dans la boîte ?
Ouais, c'est dans la boîte.
Allez, à tout de suite.
Thank you.
Tyrants, Turbonite. Donc c'était une jolie petite musique synthwave, comme on aime bien.
Ouais.
Le sujet du jour, toujours sur Radio Méga, avec conteneur.
Oui, oui, je vais vous sortir en boîte, enfin en conteneur.
Ah.
Ouais. Ouais. Bah d'abord, c'est quoi les conteneurs? Vous avez déjà sûrement entendu parler de Docker ou de conteneur dans le contexte de l'informatique. Mm-hmm. Mais c'est quoi donc? En fait, c'est une évolution plus ou moins naturelle du shroud, un concept assez vieux sous Unix. Le shroud est un moyen de changer la racine du système de fichiers d'un ensemble de processus afin qu'il puisse en voir une partie seulement et ne touche pas au reste. Donc chroud, change root, en fait, on change la racine du système de fichiers pour certains processus. On utilisait ça, par exemple, il y a très longtemps, pour les serveurs FTP, ainsi en cas de bug, ils ne pouvaient pas écraser des fichiers du système et d'autres utilisateurs. Cependant, même s'ils ne peuvent pas accéder directement au reste du système de fichiers, un processus a accès à bien d'autres ressources gérées aussi par le noyau, comme les interfaces réseau ou bien la mémoire, et pourrait donc théoriquement la saturer. Et pas que théoriquement d'ailleurs, parce que bah, y a les fork bombs et tout, des trucs bien sympas. Un conteneur reprend donc ce principe d'isolation en l'étendant à toutes les ressources gérées par le noyau et mises à disposition des processus. Le but est de minimiser à la fois les possibilités d'interférence entre les processus un peu trop gourmands et les risques de compromission du système en cas de brèche dans un des logiciels mis en œuvre. Cela permet aussi de modulariser le déploiement et la gestion des différents services sur un serveur. Ces qualités se retrouvaient déjà dans les nombreuses solutions de virtualisation. Mais là où la virtualisation demande plus de ressources, car il faut émuler une machine plus ou moins complète, même si le processeur en lui-même n'est pas vraiment émulé, on laisse le logiciel s'exécuter directement sur le processeur, mais dès qu'il veut accéder au matériel, bah, il faut faire autre chose que ce qui était prévu. Donc là où la virtualisation demande plus de ressources, et fait tourner un autre noyau par-dessus la machine émulée, les conteneurs, au contraire, font tourner les logiciels déployés directement sur le noyau hôte, car ils sont juste des processus comme les autres, mais dont les ressources sont limitées à ce qui est prescrit. En fait, au lieu de proposer une abstraction au niveau du matériel, les conteneurs utilisent les appels système du noyau comme couche d'abstraction. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Des systèmes de conteneurs plus ou moins complets sont apparus sur certains Unix au cours des années. Alors, il y a eu les JSON de FreeBSD, les zones dans Solaris, en tant qu'évolution donc du shroud. Mais c'est surtout Linux qui offre le plus de possibilités à ce niveau-là, avec diverses implémentations. Et alors, on en arrive donc au namespace. Dans Linux, en fait, les différentes solutions de conteneurs utilisent en fait le même mécanisme du noyau, qu'on appelle les namespace, ou espaces de nommage en français, qui sont des ensembles de limites configurables pour plusieurs ressources, plusieurs catégories de ressources. Que ce soit l'utilisation du processeur, hein, on va en limiter par exemple à un seul cœur ou à 50% maximum du processeur, l'accès au réseau, la limite en utilisation de mémoire, etc. Et donc ces limites, on va les assigner à un ou plusieurs processus. Ainsi, on va définir par exemple un namespace avec un nom et une limite de 4 gigaoctets de RAM, par exemple, et puis on va l'assigner à un processus qui lancera un logiciel un peu trop gourmand. Celui-ci verra alors sa demande d'allocation mémoire échouée après la limite dépassée, alors qu'il reste en fait de la RAM disponible pour les autres logiciels. Le noyau, lui, n'a pas de concept de conteneur en tant que tel. Il se contente de fournir donc une interface pour manipuler ces fameux namespaces et les assigner au processus. Ensuite, les différentes solutions de conteneurisation ajoutent une couche plus facile d'utilisation pour les mettre en œuvre. Alors, comme j'ai dit, il y a des pour et des contre. Les conteneurs permettent de moins gaspiller des ressources, mémoire, processeur, mémoire, processeur, donc ça gaspille moins de ressources que la virtualisation.
Donc c'est écologique.
Alors oui, du coup ça gaspille un peu moins, à utilisation identique. Puisqu'il y a moins de couches entre les services et le matériel. Ils sont ainsi plus légers, plus rapides à démarrer et à déployer. Certaines choses sont beaucoup plus simples à faire avec mon conteneur, comme l'accès au périphérique et à la carte graphique. Il est même possible, et même assez facile, de faire tourner un bureau entier comme GNOME entièrement dans un conteneur. Même si on peut aussi lancer une interface graphique dans une machine virtuelle, en fait, ça reste quand même souvent très poussif, puisque du coup, il y a une carte graphique qui est entière, qui est simulée et qui est utilisée par cette interface graphique, qui ensuite sera affichée dans une fenêtre, etc. Par contre, ils ne permettent pas de se protéger contre certaines failles dans le noyau, puisque c'est le même qui fait tourner tous les services. Même si la virtualisation peut parfois être contournée, cela reste plus complexe, puisque la surface d'attaque de l'hyperviseur, elle, est plus réduite. Quoique la complexité du matériel aidant, on ne sait jamais. Hein. Alors, il y a différentes technologies. Pour les déploiements sur les serveurs, le plus connu c'est Docker, vous en avez déjà parlé. Hein. Mm-hmm. C'est ce qui est souvent mis en avant par beaucoup de projets comme la méthode de déploiement privilégiée, parfois même la seule et unique, la rendant plus ou moins obligatoire. Et alors quand on est un peu allergique à Docker, comment on installe votre truc sans Docker? Voilà. Avec quelques artifices, il est même possible d'utiliser Docker sur Windows ou Mac, même si on ne voit pas trop pourquoi on voudrait. Mais
bon. Écoute, nous, c'est ce qu'on utilise déjà pour _.radio.fm. Hein.
Oui, voilà.
Notre site est dans un Docker. Hein.
Ouais. Si Docker est relativement bien documenté, il a un côté usine à gaz qui peut rebuter, même s'il permet effectivement de simplifier le déploiement, notamment avec des outils comme Docker Compose, qui permettent de reconstruire un ensemble de conteneurs automatiquement à partir d'un simple fichier texte contenant les directives à utiliser. Ainsi, on peut déclarer que l'on veut un conteneur nommé BDD Nextcloud, par exemple, basé sur Debian, avec MySQL installé dedans, puis un conteneur web Nextcloud, basé sur une autre distribution, pour y télécharger l'archive de Nextcloud, lancer l'installation à l'intérieur avec le script et puis les bons paramètres, et en stockant les fichiers à tel endroit, pour pouvoir les garder ensuite, et puis les connecter tous les deux, donc les deux conteneurs, la base de données et puis la partie web, on les connecte tous les deux sur l'interface réseau virtuel et puis voilà. Ensuite, pour la mise à jour, on relance Docker Compose et puis il va reconstruire les deux conteneurs avec les nouvelles versions tout en gardant les données. Enfin ça, c'est la théorie. À noter, il y a une version française de Docker qui s'appelle Marcel.
Oh, Marcel!
Ouais, je crois qu'on en a déjà parlé.
Est-ce qu'il habite à Marseille?
Ah, avec donc des commandes comme Marcel chauffe, hein, ou Marcel CD-ROM. Ah. Ouais. Bon, c'est plus une parodie qu'autre chose, mais c'est fonctionnel. Hein. Oui, Medbel?
Je dis, il y a de quoi l'habiller.
Oui. Ouais. Puis c'est adapté au temps qu'il fait, hein, le temps actuel, parce qu'il fait très chaud. Une alternative à Docker est LXC, avec éventuellement la surcouche LXD, qui est plus légère et peut-être plus facile à prendre en main. Ça va dépendre des habitudes de certains. Cela se rapproche probablement plus de la VM traditionnelle, où on part d'un patron avec une distribution préconfigurée, pour ensuite installer le logiciel à la main à l'intérieur. La plupart des logiciels de gestion de machines virtuelles savent maintenant également contrôler certains systèmes de conteneurs, et donc déployer l'un ou l'autre, suivant les besoins, hein, soit une VM, soit un conteneur, comme on veut, avec une gestion uniformisée. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique quand on a toute une flotte de services à gérer. Mais les conteneurs ne servent pas qu'au serveur. Il est aussi possible de les utiliser sur sa machine perso pour améliorer la sécurité de son système. Par exemple, sous GNU Linux, toujours, on a FireJail, qui permet de lancer notamment des applications propriétaires, Zoom, au hasard. Enfin, je sais pas.
Ouais, quand t'as besoin d'installer un truc Microsoft.
Ouais, par exemple. Et en s'assurant qu'elle n'accède pas au système de fichiers, aux fichiers personnels dans l'OS. Quoi. Créé par l'université de Berkeley, Singularity est une autre solution, à mi-chemin, hein, donc entre FireJail et Docker, utilisé entre autres, par exemple, pour s'assurer d'un déploiement à l'identique de logiciels scientifiques, ce qui ajoute une garantie sur les résultats, parce que du coup, on sait que c'est la même version de chaque dépendance qui est installée à chaque fois. Hein, en fait, c'est comme si on avait toujours la même machine avec toujours les mêmes logiciels dedans, et quand on rejoue en fait le logiciel sur les données d'entrée, on a les mêmes résultats en sortie, normalement. A noter que Firefox propose des extensions mentionnant la notion de conteneur, mais même si en fait il ne s'agit pas exactement de ce niveau de séparation entre les processus, a priori, enfin, je ne suis pas allé fouiller, mais il y a des trucs comme Facebook Container, Firefox Multi-Account, enfin bon. Cette notion de conteneur, même si ce n'est pas exactement la même chose. Quoi. Mais voilà, donc j'espère que vous avez un peu mieux compris ce que c'est que les conteneurs, à quoi ça sert. Et bah, voilà, si vous avez envie de
vous lancer,
et d'installer des trucs chez vous, bah, ça peut être une solution.
Après, c'est intéressant parce que ça permet de garder l'intégrité des données vraiment dans un endroit où après, tu peux déplacer tout ton conteneur, tu peux le déplacer ailleurs, quoi.
Alors, c'est aussi une chose que je n'ai pas mentionné, effectivement, sur des gros systèmes, ça permet, par exemple, de lancer plusieurs instances du même logiciel, à condition qu'il soit prévu pour gérer bah, plus de demandes. Donc, on va dispatcher, en fait, sur plusieurs serveurs, on va dispatcher les requêtes. Et puis, ça permet aussi bah, de le redéployer ailleurs, plutôt que d'avoir à tout réinstaller à chaque fois.
Oui, ça veut dire, en fait, c'est un peu comme si tu avais un périphérique, une clé USB que tu branches un peu n'importe où.
C'est un peu ça.
T'as le même environnement. Quoi.
On part avec son conteneur sous le bras. Bah, c'est la vision du conteneur en fait sur les bateaux où on prend avec la grue, on le dépose, on le débarque, on le remet ailleurs, etc. Donc c'est un peu cette idée-là. Même si en vrai, quand on regarde comment ça marche, c'est des conteneurs mais avec des grosses fenêtres et puis des gros tuyaux entre les conteneurs. Donc c'est pas aussi simple que ça. Mais c'est l'idée de départ en fait. Voilà.
Ok. Bien voilà. Eh bien, merci, Mémiman, pour nous avoir éclairé sur les dockers. Hein. Bien sûr, vous retrouverez
Marcel
aussi, des liens croustillants sur notre site qui est sur Docker aussi, _.radio.fm. Vous retrouverez tout ça. On écoute en Télogium de Software Failure pour après se retrouver pour l'agenda. À tout de suite.
Ouais, Marcel, c'est des rums.
Allez, chauffe. C'était Anthelogium de Software Failure. Donc c'est une musique issue d'une intro Amiga qui a été présentée à la révision 2022 et qui a terminé deuxième à la compétition. Nous passons à l'agenda.
Ouais, jingle.
L'agenda. Et on a du monde, hein, mais rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi. Qu'est-ce qu'on a ?
Icône by Susan Kerr, le musée de l'imprimerie de Lyon vous invite à la première rétrospective internationale de l'iconographe Susan Kerr. Depuis que l'ordinateur est entré dans nos vies, ses créations font partie de notre quotidien. Elle a été employée chez Apple en 82 pour humaniser le premier Macintosh. Elle a créé les icônes que nous utilisons tous et toutes quotidiennement et est ainsi considérée comme une pionnière du pixel art.
Wow.
Ce sera du jeudi 14 avril au dimanche 18 septembre 2022 au musée de l'imprimerie et de la communication graphique, 13 rue de la Poulaillerie à Lyon 2.
Conférence Technopolis. Picassoft invite la Quadrature du Net pour une conférence sur l'état des lieux de la surveillance dans les villes et les moyens de résistance. Pour les personnes extérieures à l'école, le rendez-vous est à 18h50 sur la passerelle et l'inscription est obligatoire. Mardi 24 mai, de 19h à 21h30, l'amphi FA201, l'Université de Technologie de Compiègne, Benjamin Franklin, rue du Port, à Bateau, Compiègne.
Atelier de fabrication de batteries au lithium issues de batteries de récupération. Réalisation d'une batterie rechargeable 12 volts 10 ampères-heure lithium-ion issue de batterie d'ordinateur portable dite HS. Eh, parce que parfois il y a des cellules qui ne sont pas complètement hors service. Se familiariser avec le fonctionnement des batteries lithium type 18650. Apprendre à démonter sans risque des batteries d'ordinateur, les trier, les tester, les dimensionner, les assembler, les souder. Adapter le BMS, donc le Battery Management System, à l'utilisation pour obtenir une batterie aux caractéristiques souhaitées. Donc c'est sur inscription, mardi 24 mai de 9h à 17h30, c'est une journée entière, chemin de Rush à Tournon-sur-Rhône.
C'est chaud comme atelier, je veux dire, les batteries c'est quelque chose de très fragile qui peut prendre feu par exemple si on la plie ou si on l'arrache un peu trop.
Ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on les autorise sur les avions.
C'est ça.
Enfin bon.
Ouais. En tout cas, j'espère qu'ils ont prévu plein de silice à côté des ateliers parce que ça risque de...
Oui, pas comme un certain Linus qui fait des vidéos avec ses 17 millions d'abonnés et qui fout le feu. Ah. Non, mais bon, y a un certain danger comme certains trucs.
Bien sûr.
Il faut gérer, c'est tout.
C'est ça.
Ensuite.
Retro Game Alp 2022, après deux années particulièrement chaotiques, l'association Wake Online reprend du service et vous invite au Retro Game Alp du 27 au 29 mai 2022. Trois jours de fête autour des flippers, des consoles et de vieux micros et autres bornes d'arcade. Ça fait du bruit, hein.
Ouais.
Le Retro Game Alp, c'est un salon dédié à tous les nostalgiques, hautement recommandé à tous les curieux qui voudraient redécouvrir comment on passait de bons moments dans les années 90 ou 80. Donc ce sera du 27 mai au 29 mai. Espace Claretière, 6 rue du Cornillon à Fontanil-le-Cornillon. Donc c'est côté Grenoble.
Voilà. Il y a une PAF de 4 euros par jour par visiteur.
Et c'est gratuit avant 4 ans. Et ouais. L'accès est illimité à toutes les machines.
Ouais.
Convention Gemtos 2022. L'association Manine est heureuse de mettre en place la toute première édition de cette convention spécialement dédiée à la marque Atari. Les autres bécanes et consoles sont aussi les bienvenues. Durant le week-end, plusieurs jeux concourent avec l'eau à gagner, Substation en réseau MIDI, Lotus Turbo A4, jeux surprise sur console, des invités surprises et certainement un mini-concert de musique le midi. C'est payant sur inscription. Le 28 et 29 mai 2022, la salle des fêtes de Saint-Just-en-Chaussée.
Alors, je pense que c'est de la musique midi, hein.
Ouais, midi musique.
Mais on va le faire à midi, hein, si tu veux. Pas de soucis. Alors, du lien à des liens. Alors, WDA met à jour sa liste de machines recherchées. Si vous avez une, vous voulez en proposer en échange à cette association, voilà.
Ouais.
Unredacted, un nouveau magazine sur la sécurité informatique en anglais.
Treyware, un jeu d'action sur le thème de Star Trek pour le Commodore PET.
Ah, c'est Treyware, il manque le K. Le sondage annuel des utilisateurs de Curl est en ligne. Vous pouvez répondre jusqu'au 31 mai.
Les vidéos du ballon Strato sont disponibles. Rappelons qu'il est lancé tous les ans par l'IUT de Valence. Ah oui, je l'ai vu ça sur Facebook. Les élèves du collège du Triboulet de Romans et le Load.
L'extension de navigateur Sponsor Block permet de zapper les sponsors dans les vidéos YouTube.
Ouais, c'est cool ça.
Astrologique, qui frotte la boule. Alors, gamer, tu viens à la LAN party? Alors non, je peux pas l'entendre chanter. Hein.
Sysadmin, espérons que les gens vont apprécier la mise à jouir.
Merde, tu sais ce que dit un surfeur qui décide d'utiliser exclusivement WGET? RIP Curl.
Ah oui, c'est WGET ou Curl. C'est... Codeur, nous avons tous codé dans le village. Quand on le sortira, on aura l'ISO du village.
Ah.
Ouais, ok.
DevOps.
Elles sont pas toutes de moi, hein, je vous ai dit.
Non, non, mais bien sûr. DevOps. Non, mais quand j'ai dit qu'on avait besoin du raid, je parlais pas de la police, hein.
Électronicien, les fées Hall, ce sont des tentes aimantes.
Oh.
Ah, celle-là, elle est de moi.
Bravo. En tout cas, amis auditeurs, j'espère que vous nous avez écoutés jusqu'au bout de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur Radio Méga à 12h10 et aussi en diffusion le samedi à 12h10. Hein. Donc, si vous l'avez à peine écouté, vous pourrez la réécouter le samedi suivant.
Ouais.
D'ici là, portez-vous bien. Avec un peu plus de frais, on espère, hein, parce qu'il fait chaud, hein, là. Ouf, là, ce dimanche, il fait très très chaud dans les studios.
On vous envoie du vent.
C'est ça. Et puis, en attendant, on vous propose de nous écouter aussi la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ah, je crois qu'on va parler encore de musique.
Ouais.
Nous aurons sûrement des choses sympas à vous écouter, à vous faire écouter avec Matt Bell qui va sûrement vous décortiquer quelque chose. À la semaine prochaine. Bye bye.
Bye bye.
Bye bye.
Ciao.